J'ai une bonne question pour vous. Est-ce que Dieu dirige ceux qui veulent marcher avec intégrité, dans l'obéissance totale envers sa parole? Nous entendrons la réponse que Dieu donne aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va recevoir un très bon enseignement aujourd'hui en réponse aux questions que j'ai trouvées. Et ces questions sont probablement les vôtres. Les voici. Est-ce que Dieu contrôle réellement tous les détails et tous les événements de notre vie? Est-ce que Dieu peut diriger ma vie aujourd'hui aussi bien qu'il dirigeait celle des gens dans le temps d'Isaac? Est-ce qu'il y a des circonstances qui peuvent justifier la désobéissance à Dieu? La Bible enseigne-t-elle que la véritable foi repose sur la parole de Dieu? Est-ce que je dois demander à Dieu de me diriger dans tous mes choix? Est-ce que l'obéissance à la parole de Dieu nous donne l'assurance que Dieu va guider notre vie? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a trouvé les réponses à toutes ces questions dans la parole de Dieu et puis est prêt à nous les donner. Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs afin qu'on puisse comprendre, bien saisir ce qu'il veut nous enseigner. Prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta fidélité à nous l'enseigner quotidiennement. On veut encore bien la comprendre aujourd'hui. Dispose nos cœurs. Dispose le cœur de chaque personne qui t'écoute en ce moment. Et fais-nous comprendre tes vérités, ta vérité. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, le chapitre 24 est un des plus riches de la parole de Dieu, car il raconte une histoire d'amour qui remonte au début. Nous y découvrons des éléments de la vie sociale de l'époque. Nous avons le récit détaillé de la façon qu'une épouse fut choisie pour Isaac. De plus, nous retrouvons dans ce chapitre une autre image d'une vérité spirituelle profonde. À la dernière émission, nous avons mis à peine le pied dans la porte de ce chapitre. J'ai simplement lu le premier verset afin d'introduire le chapitre. Relisons-le. Genèse, chapitre 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Maintenant, il désire trouver une épouse pour son fils Isaac, mais il ne veut pas une épouse du pays de Canaan à cause de l'idolâtrie qui y est pratiquée couramment et du paganisme qui y prédomine. Donc, il envoie son serviteur vers les siens dans le pays de Charan. Remarquez sa façon de procéder. Au chapitre 24, nous arrivons à une autre section. Rappelez-vous, chers amis, le plan de notre étude. Les 11 premiers chapitres relatent 4 grands événements, et le reste du livre de la Genèse, à partir du chapitre 12, nous présente 4 grands personnages. Donc, nous avons lu l'histoire d'Abraham, l'homme de foi, du chapitre 12 au chapitre 23. Maintenant, nous abordons l'histoire du fils du nom d'Isaac. Oui, le fils bien-aimé. Nous verrons 3 grands événements dans la vie d'Isaac. Nous avons déjà vu sa naissance. Le suivant fut le sacrifice sur le mont Morija, alors que Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Le troisième événement est le choix de son épouse. On dit qu'il y a 3 événements principaux dans la vie d'un homme. Sa naissance, son décès et son mariage. Ce sont là les 3 événements majeurs de la vie d'un homme. Maintenant, nous allons voir comment fut choisie l'épouse d'Isaac. Ce chapitre est merveilleux, et j'aimerais que vous remarquiez 2 choses alors que nous étudierons ce chapitre. Premièrement, remarquez la main de Dieu sur tous les détails et tous les événements de la vie de tous les personnages impliqués dans le récit. Ce fait frappe ceux qui lisent le récit. Même dans le climat social de l'époque, des personnes s'attendaient à Dieu afin qu'il dirige leur vie. ceci se passait à une époque que certains ont tendance à considérer préhistorique et pendant laquelle les gens étaient peu civilisés. Ne croyez surtout pas cela. L'homme n'était pas préhistorique au temps d'Isaac. Il l'est peut-être davantage aujourd'hui, mais il était civilisé à cette époque. Nous voyons que Dieu dirige les siens. Et si Dieu pouvait diriger ces personnes en ce temps-là, alors il peut diriger votre vie aujourd'hui, ainsi que la mienne. Le deuxième point qui mérite notre attention est la manière nette et précise avec laquelle Rebecca a pris sa décision de suivre le serviteur et devenir l'épouse d'Isaac. Sa façon d'agir fut remarquable, et nous le verrons lorsque nous y arriverons. Présentement, je ne fais que vous mettre la puce à l'oreille afin que la chose ne vous échappe pas. Poursuivons notre lecture. Verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel. C'est ainsi que l'on prêtait serment à l'époque. On ne levait pas la main droite en plaçant la main gauche sur la Bible. Premièrement, la Bible n'était pas encore rédigée. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire qu'une personne mette sa main sur la Bible pour prêter serment. Et même s'il est nécessaire que vous fassiez cela pour dire la vérité, allez-vous vraiment dire la vérité? Cependant, nous voyons ici la façon de procéder à l'époque. Un homme plaçait la main sous la cuisse de l'homme à qui il allait prêter serment. Donc, ce serviteur, et je pense que c'était Éliézer, était l'intendant des biens d'Abraham et il avait un fils. En fait, Abraham avait proposé à Dieu qu'il devienne sa postérité. Verset 3. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Mes frères dans le Seigneur, je m'adresse à vous. Ceux qui sont croyants et qui ont placé leur foi en Jésus-Christ seul, si vous avez un fils ou une fille en âge de se marier dans votre famille, priez afin qu'il ou elle n'épouse pas une personne du pays de Canaan. Il y a un très grand danger qu'un de nos enfants épouse un Cananéen ou une Cananéenne, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né de nouveau en Christ. Vous aurez le démon comme beau-père, et soyez assurés que vous aurez des ennuis. Poursuivons notre lecture, versets 4 à 6. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. En fait, le serviteur demande à Abraham s'il doit revenir chercher Isaac pour l'accompagner à Charan si aucune fille ne veut le suivre du pays de Canaan. Abraham interdit absolument qu'Isaac retourne dans l'autre pays. Abraham sait que Dieu les veut dans ce pays. Donc, aucune circonstance ne peut justifier la désobéissance à Dieu. Verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, « Je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Abraham est véritablement un homme de foi. Il en fait encore une fois la démonstration. Il dit à son serviteur qu'il pouvait compter sur Dieu pour le diriger. Abraham affirme que Dieu lui a parlé. La foi n'est pas une croyance en quelque chose de nébuleux, de vague et d'inconnu. La foi repose sur la parole de Dieu. Bien des gens disent aujourd'hui, « J'ai cru en Dieu, la chose va se produire. » C'est bien de croire Dieu, mais il faut un document écrit, une promesse. Abraham a toujours demandé un contrat écrit, et il en avait un. Dieu avait fait un contrat avec lui. Dans ce contrat, Dieu avait promis qu'à travers la postérité d'Abraham, qui est Isaac, qu'il bénirait toutes les nations du monde. Nous pouvons être assurés que Dieu a choisi et préparé une épouse pour Isaac. Abraham s'appuie sur ce que Dieu a dit. Il n'est pas nécessaire que nous soyons présomptueux aujourd'hui. La foi n'est pas de la présomption, c'est s'appuyer sur du solide, la parole de Dieu. Et c'est toujours quelque chose de raisonnable. La foi n'est pas jouer à la roulette russe avec notre vie en affirmant que telle ou telle chose va se produire. Ce n'est pas un coup de dé. La foi est l'assurance que nous donne la parole de Dieu. Ici, Abraham fait confiance à Dieu. Dieu l'a dit, donc c'est vrai. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Abraham interdit à son serviteur de ramener Isaac à Charan. Il dégage son serviteur de son serment, si la femme ne veut pas le suivre en Canaan. Que signifie tout cela? Abraham affirme simplement que Dieu a déjà tout préparé à sa façon. Abraham ne sait pas ce que Dieu fera exactement, mais il sait qu'Isaac ne peut pas retourner à Charan. Mes amis, cela est la foi. Marcher par la foi, c'est marcher en conformité à la parole de Dieu. La foi repose sur un fondement. Dieu nous demande de croire sa parole et ne pas simplement croire à quelque chose de nébuleux, aux apparences pieuses. La foi n'est pas un instrument pour manipuler Dieu afin qu'il accomplisse nos désirs. Certains pensent, parce qu'ils croient quelque chose, Dieu doit s'y conformer. Laissez-moi vous dire, je veux être guéri autant que n'importe qui, et je crois que Dieu peut guérir une personne. Ne me dites pas que je ne crois pas que Dieu puisse guérir quelqu'un en réponse à la prière. Mon corps pourrait être rongé par le cancer, mais si quelqu'un vient me dire que je peux forcer la main de Dieu, que Dieu sera obligé de me guérir, je n'en suis pas encore là. Je ne connais pas sa volonté. Je veux faire sa volonté, et je veux que sa volonté soit faite. Nous devons prier Dieu, et nous pouvons lui présenter des requêtes, mais non forcer la main de Dieu. C'est Dieu qui décide de la réponse. La foi d'Abraham a un fondement. Il n'exige pas quoi que ce soit de Dieu. Il dit que si son plan ne se réalise pas, c'est que Dieu en a un autre. Verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Eh bien, nous voyons le serviteur qui se met tout simplement en route pour accomplir sa mission. Le verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakhor. Permettez que je fasse une petite pause dans la lecture pour insérer ce commentaire. Je pense qu'il n'y avait pas seulement 3 mages qui montaient 3 chameaux pour venir adorer notre Seigneur Jésus à Bethléem. Cela n'aurait pas provoqué de remous à Jérusalem. Je pense qu'il y avait 300 mages sur 300 chameaux. L'Écriture permet cette interprétation. Le nombre des mages ne nous est pas donné. Nous savons qu'il y avait 3 sortes de cadeaux, mais cela ne nous dit pas le nombre de mages. Remarquez que le serviteur part avec 10 chameaux, donc quelqu'un devait les monter. Cela veut dire que plusieurs serviteurs l'accompagnaient. Verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Cela peut nous paraître étrange, mais ce sont les femmes qui abreuvaient les chameaux à cette époque. Les femmes faisaient plus de travail alors qu'elles n'en font aujourd'hui. Je parle ici de travaux physiquement difficiles, pas de nombre d'heures de travail. Les femmes abreuvaient et entretenaient les chameaux. Les hommes s'occupaient du commerce. Ils occupaient des tâches différentes, mais ils n'étaient pas paresseux. C'était la coutume de l'époque. Il attendait, car ce n'était pas admissible qu'il fasse lui-même boire ses chameaux avant que des gens de la ville viennent au puits. Notez que ce serviteur qui dépend de Dieu dit, et lisons ensemble les versets 12 à 14. Il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Les filles de la ville sont sur le point de venir puiser de l'eau. Personne n'a dit au serviteur quelle fille choisir. Donc, il devra faire le choix lui-même. Il prie afin que son choix corresponde à celui de Dieu. Il demande à Dieu de le diriger dans son choix. Qui va-t-il choisir? Bien, il est un homme, alors il va aller vers la plus jolie. Donc, nous savons que Rebecca était une belle femme. Nous devons mettre l'accent sur cela aujourd'hui. Les puritains pensaient que la beauté venait du diable. En fait, le diable était un bel ange, et c'est un ange de lumière. Cependant, il n'a pas l'exclusivité en matière de beauté. Dieu est le Créateur, et vous n'avez pas vu un coucher de soleil éclatant de beauté ou une belle fleur qu'il n'a pas créée? Dieu fait aussi des femmes superbes, et il n'y a aucun mal à cela. Le serviteur va choisir la plus belle. Il serait un piètre serviteur s'il ne le faisait pas. Verset 16. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit, sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nakhor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche, et remonta. Je vous l'avais dit qu'il choisirait une belle fille. Bien entendu, j'avais déjà lu le texte. La parole de Dieu affirme qu'elle était belle. Il n'y a rien de mal à cela. Dieu a créé la beauté. Il n'y a rien de mal à ce qu'il choisisse une belle personne pour accomplir son œuvre et ses plans. Je prie que Dieu appelle des jeunes hommes et des jeunes femmes attrayants à son service. Rebecca aurait probablement gagné un concours de beauté. Versets 17 à 19. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Rebecca est une fille polie et courtoise, en plus d'être belle. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Rappelez-vous, il y avait 10 chameaux. Il se peut qu'ils n'avaient pas bu depuis un certain temps. Remplir un chameau, c'est comme faire le plein d'un radiateur d'automobile ou le plein d'essence. Verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Le serviteur observe la scène avec étonnement. Il se demande si sa prière est répondue, si c'est la direction de Dieu. Verset 22 à 26. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et 2 bracelets du poids de 10 sicles d'or. Il dit, « De qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nakhor. » Elle lui dit encore, « Y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Le serviteur reconnaît la main de l'Éternel. C'est merveilleux de voir Dieu guider une vie. Verset 27. En disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Nous avons ici de belles paroles. Dieu a dirigé le serviteur qui s'était mis en marche, et il dirige ceux qui se mettent en marche aujourd'hui, ceux qui veulent marcher dans ses voies et être dirigés par lui. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté ferme de servir Dieu. Dieu dirige les cœurs dociles. Versets 28 et 29. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban, et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. « Mes amis, je vous avertis, gardez un œil sur Laban. Il fut très impressionné par les choses matérielles. Observez ce qui se produisit. » Verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Le serviteur avait entendu près du puits afin de voir si la famille de Rebecca accepterait de l'accueillir. Croyez-moi, lorsque Laban a vu les bijoux, il savait que le visiteur était riche. Il n'allait pas laisser l'occasion lui échapper. Si vous avez des doutes, attendez de voir ce qui se passera entre lui et Jacob plus tard. Jacob a découvert que Laban était un homme d'affaires coriace. Laban était plus habile que Jacob en matière de commerce. Laban va à la rencontre du serviteur. Verset 31. Et il dit, « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Même Laban reconnaissait qu'il y avait un seul Dieu, le Créateur. Il a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Verset 32. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux, et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux, et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Plusieurs serviteurs accompagnaient l'intendant d'Abraham. Celui-ci reçut comme un roi chez Laban. C'est Laban qui veille à tout. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans les détails aujourd'hui, mais nous allons voir comment il gagne le cœur de Rebecca qui accepte de le suivre chez Abraham pour épouser Isaac. Chers amis, nous avons vu dans cette leçon, dans cette étude, que nous avons besoin d'un cœur docile pour apprendre à se laisser diriger, conduire par la main de Dieu. Dieu veut conduire chacun d'entre nous. Il a un but bien précis pour notre vie. Un texte biblique, celui de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 9, nous dit, et je cite, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant pour la connaissance de Dieu. » Chers amis, demandez-vous à Dieu de faire sa volonté, ou lui résistez-vous en le priant de faire la vôtre? Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse, chapitre 24, les versets 33 à 67.
Merci, Régent. On a pu voir clairement aujourd'hui que marcher par la foi, c'est marcher en conformité à la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. On a vu aussi qu'Abraham n'exigeait rien de Dieu. Si son plan ne se réalisait pas, c'était que Dieu en avait un autre pour lui. Il acceptait entièrement la volonté de Dieu. Le serviteur d'Abraham était obéissant lui aussi. Il a prié afin que le choix pour l'épouse d'Isaac soit celui de Dieu. Il a demandé à Dieu de le diriger dans ce choix. Puis je remarque ici qu'il n'a pas tourné en rond. Dieu l'a immédiatement dirigé vers la bonne personne pour être l'épouse d'Isaac. Ça me fait penser qu'on devrait toujours consulter Dieu avant de prendre quelque décision que ce soit. On peut le faire par la prière, en se basant sur les vérités bibliques, bien sûr, puis en cherchant sincèrement à faire la volonté de Dieu. Ça me rappelle qu'après avoir accepté Jésus pour mon sauveur, j'avais décidé de plus chanter jamais dans les cabarets. Parce que là, à cette époque-là, on gagnait la majeure partie de notre salaire dans les cabarets. Puis à ce moment-là, j'ai quitté la ville d'Outremont pour demeurer à Boucherville, pour être plus près de la personne qui m'avait conduite au Seigneur. Mais après une certaine période sabbatique, j'ai dû trouver un emploi pour gagner ma vie. Alors, puisque je fréquentais une église dans la région de Granby, j'ai demandé à Dieu où est-ce qu'il voulait que je m'établisse d'une manière plus permanente. Alors, j'ai donc décidé de chercher un emploi à Montréal, sur la rive sud, puis à Granby, disant à Dieu que là où il me donnerait cet emploi, je comprendrais que c'était l'endroit où il voulait que je m'établisse. Peu de temps après, j'ai trouvé un emploi à Granby, et c'est là que je demeure depuis environ 24 ans. Puis je suis très heureuse à Granby. C'était son choix. Si j'avais décidé d'aller ailleurs, je suis certaine que j'aurais pas été aussi heureuse. Dieu aime qu'on cherche sa volonté dans toutes nos décisions. Qu'elles soient petites ou grandes, il aime nous bénir. Il veut nous donner ce qu'il y a de mieux pour nous. Ça me rappelle un chant que beaucoup de gens connaissent dans les milieux évangéliques. Les paroles disent « Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur, tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi dure à toujours. Pour moi dure à toujours. » Alors confions-nous en Dieu. Faisons-lui confiance. Il exauce nos prières. Il dit « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et c'est ce qui va arriver.
Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, deux régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain. Vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.